J'ai du beau monde avec moi pour parler d'un projet assez génial que l'Université de Concordia a mis en place. Ça s'appelle Montréal sans obstacles et c'est une dizaine d'équipes qui ont travaillé pour rendre Montréal sans obstacles, donc dans différents thèmes. Alors j'ai au téléphone Marie-Lou Daudier, également coordinatrice du projet du bureau de l'engagement communautaire à Concordia. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir tout le beau monde de
Ouais, je vais les
Montréal
nommer
sans
après.
obstacles. Merci.
Ben non, je vais les nommer maintenant d'abord. Marc-André Delorme, coordonnateur du projet à la Maison de l'innovation sociale, qui est partenaire de Montréal sans obstacles. Bonjour.
Bonjour.
Zara Pil, membre de l'équipe Visiter les petits restaurants et les cafés, vient du milieu professionnel à titre de service designer. Vous êtes entrepreneuse. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Marvane Lacroix-Bergeron, qui est membre de l'équipe Communiquer au travail, qui est interprète LSQ et qui participe à titre de citoyen.
Bonjour.
Bonjour. Alors voilà, Marie-Lou, maintenant je reviens vers vous.
Oui.
Expliquez-nous ce qu'est Montréal sans obstacles, en quelques mots.
Alors, Montréal sans obstacles, c'est un défi de conception non compétitif qui vise à rendre la ville de Montréal plus inclusive et accessible pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Alors, comment on a fait ça? C'est dans un processus de design thinking. Donc, en quatre phases, on a développé des projets. Donc, la première phase, c'était de former les équipes. Donc, on a rassemblé des gens avec différents profils, que ce soit des étudiants, des personnes en situation de handicap, des ingénieurs, des activistes. On a tout regroupé ce monde-là pour former des équipes multidisciplinaires dans un premier temps. On les a renseignés sur c'est quoi le design thinking, c'est quoi l'accessibilité. Par la suite, on a eu une phase de recherche où on a invité les équipes à aller dans la communauté et à poser des questions. Ensuite de ça, il y a une
Oui.
troisième phase où il y a eu du design et du prototypage. Et finalement, la quatrième phase, c'était la présentation des idées. Donc, en fait, c'est en gros, c'est ça Montréal sans obstacle.
C'est comme un Fab Lab, en fait, réunissant plein de gens
Ouais.
pour une même cause, avec
Ouais.
différentes compétences. Et vous avez plusieurs partenaires, est-ce que vous pouvez nous les citer?
Oui, donc on a des beaux partenaires qui ont travaillé vraiment fort avec nous pour rendre le projet possible. Donc on a bien sûr la Maison de l'innovation sociale qui a été là non seulement dans le comité de pilotage, mais aussi nous a aidés à animer certains ateliers. Donc par exemple, la Maison de l'innovation sociale a aidé à savoir comment présenter un argumentaire. Donc, quand c'est rendu à la présentation, ils ont formé les participants pour présenter leur pitch. Il y a
Oui.
le Critical Disability Studies Working Group de l'Université Concordia qui s'occupe plus de la recherche sur les différents enjeux des personnes en situation de handicap. Donc, ça nous a permis d'aller dans le côté un petit peu plus critique puis s'assurer qu'on était toujours assez sensible à tout
Oui.
ce qui était accessibilité. Il y a Vie Autonome Montréal, qui est un organisme très reconnu.
Oui, qu'on connaît bien ici.
Exactement, exactement. Donc, eux, ils ont contribué ça, sur notre comité de pilotage. Et aussi, il y avait la partie participation dans Montréal sans obstacle. Donc, ils nous donnaient un petit peu les deux points de vue. Et il y a District 3, bien sûr, le hub d'innovation de l'Université Concordia qui était sur le comité de pilotage, qui a designé certaines séances dans la programmation de Montréal sans obstacle. Oui.
D'accord, ben, c'est vraiment intéressant. Merci Marie-Lou de nous avoir présenté le projet. Je me tourne maintenant vers les invités en studio. Marc-André, la Maison de l'innovation sociale, c'est un projet fait pour vous sur mesure. Ça, votre rôle, ça consiste en quoi?
Oui, en fait, la Maison de l'innovation sociale existe depuis un peu plus d'un an à Montréal. C'est un organisme à but non lucratif. En fait, qui a. C'est bon, ça va? Il y a la prétention de vouloir imaginer en fait, aider les citoyens, les individus, les organisations à imaginer des solutions, en fait, aux grands défis, enjeux sociaux et environnementaux qui nous attendent au cours des prochaines années, décennies. Donc, l'idée, c'est de favoriser l'émergence d'innovations sociales, un peu comme le projet dans lequel on se trouve aujourd'hui avec Enable Montréal, mais tant d'autres. Ensuite de ça, accompagner les porteurs de projets sur le territoire québécois. On a une mission pan-québécoise. Et finalement, aiguiller les acteurs vers les bonnes ressources dans l'écosystème d'innovation sociale à Montréal et au Québec.
Et l'accessibilité universelle, est-ce que c'est un thème qui revient beaucoup à l'AMI?
L'accessibilité universelle fait partie des grandes thématiques avec lesquelles on travaille. En innovation urbaine, on parle de participation citoyenne, d'infrastructure. Donc, ça touche ces deux grandes thématiques-là, en plus de l'innovation au niveau des finances sociales et de la gouvernance.
Intéressant. Bon, ben, il faudra qu'on revienne sur l'AMI, là. On ne vous a pas invité souvent, mais c'est bien intéressant. Je me tourne maintenant vers les membres des équipes qui sont avec nous. Zara et Marvin, comment vous avez entendu parler de Montréal sans obstacles? Zara?
J'ai une amie qui travaille à Concordia, alors elle m'a passé ces informations-là et c'était vraiment en lien avec le travail que j'ai fait comme designer et entrepreneur. J'ai une petite compagnie qui s'appelle Tonomy Shop. C'est une compagnie en ligne, donc tonomyshop.com. Et j'ai fait des accessoires pour les marchettes, les déambulateurs et pour les gens en perte d'autonomie en général. Et c'est des accessoires qui donne un peu de la dignité à les gens. Mm-hmm. C'est beau. Et je suis très intéressée dans l'urbanisme et comment faire Montréal plus accessible en général. Alors, c'était vraiment en ligne avec ce que j'ai fait et j'étais très attirée par le mandat de faire les restaurants et les cafés à Montréal plus accessibles.
Intéressant. Et vous, Marvin?
Moi, en fait, c'est de bouche à oreille par un de mes amis qui s'appelle Evian Brière, un autre interprète en langue des signes québécoise aussi. Et puis, nous, on était déjà passé en fait à une émission à Ami Télé pour expliquer un peu la situation au niveau des sourds qui sont en situation d'hospitalisation en urgence, comment ils font pour communiquer, est-ce qu'on le sait, s'ils ont des allergies ou pas. Des fois, par exemple, il y a des bracelets, mais s'ils n'en ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a essayé justement de sensibiliser les personnes parce qu'on a tous les deux vécu des choses avec nos parents, moi.
Oui, vos parents sont sourds, tous les deux.
Oui, exactement. Et en plus de ça, ma mère est décédée il y a 2 ans et demi. Et durant tout le processus d'hospitalisation, il fallait que je sois là comme interprète parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'interprètes. Ce qui m'a mené justement à... Lui qui m'a proposé, Mervan, ça tente de faire un projet. J'ai entendu parler de ça. Est-ce que tu veux essayer? Tu veux t'impliquer? J'ai dit absolument, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai trouvé une opportunité là-dedans de vraiment aider à mon tour.
Ouais. Donc, tous les deux, vous mettez vraiment au service vos compétences et vos valeurs pour Montréal sans obstacle. Vous avez eu une petite contribution, je crois. Il y a eu un montant d'argent qui a été divisé, une subvention qui a été divisée dans les équipes, mais c'est quand même pas grand-chose pour tout l'investissement que vous avez donné. On peut se prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour parler de vos solutions.
Car qui soupire un détonateur livre l'amour à toute chaleur qui fournit la poudre et qui l'allumeur. Personne ne sait ni comment, ni où, ni quand. Nos lèvres touchent à la bouche du volcan. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, passer la lune, y'a le néant. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, derrière la dune, c'est l'océan. Est-ce une chambre, est-ce une cage? Enjôle-moi, belle geôlière. Suis-je en avance pour le carnage? La lune est haute, elle est pleine, elle est sincère. Mes amours, mes samouraïs, quoi faire? Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, mon cœur de fer est ton aimant. Viens-t'en, va-t'en, dévore-moi. brige la flamme de ta bombe. Est-ce que je vole ou si je tombe? Est-ce le serment d'une seconde? Préfères-tu que je t'aime ou que je t'adore? Pour la nuit ou pour la vie, trop tard. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Je te crois même quand tu mens. J't'haïs, j't'haïs, j't'haïs. J't'aime infiniment.
C'était l'Enjolière des Sœurs Boulay. Alors maintenant, on parle solutions, concrets. Soyons concrets. Donc, Mervan Lacroix-Bergeron, vous étiez membre de l'équipe Communiquer au travail. Dans votre équipe, il y avait des personnes en situation de handicap, des professionnels, des personnes comme vous, professionnelles en LSQ par exemple, qui apportaient leur expertise. Qu'est-ce que vous avez... Quel était votre mandat?
En fait, notre mandat premier, c'était tout simplement d'aider les personnes à avoir une activité beaucoup plus grande au marché du travail. Mais ensuite de ça, on s'est vraiment plus concentré sur la situation sourde parce qu'on avait déjà un projet qui avait été un peu mis de côté avant et ensuite de ça, ça rentre quand même dans le mandat.
D'accord. Et quelle solution vous proposez?
Donc en fait, on a essayé de créer une application. En fait, on a créé une application qui permet en fait de servir d'outils de communication entre un employeur ou un employeur, une personne entendante ou à une personne sourde, parce qu'on a créé un genre de dictionnaire, mais très accessible, qui est très très facile aussi à utiliser, parce qu'il y a plusieurs catégories, et puis dans les catégories, on retrouve par exemple les mots de vocabulaire les plus souvent utilisés.
En
LSQ, exactement.
Intéressant. Donc, ça permet finalement, c'est comme un petit 101 sur la LSQ pour les employés et les patrons.
Exactement. Et on a vraiment voulu que ce soit accessible et facile d'utilisation parce qu'on ne voulait pas sortir un dictionnaire. C'est pas pratique du tout, en fait, en situation réelle. Ce qui nous permet vraiment de produire quelque chose qui pourrait être utilisable ou pas, vraiment comme, je disais, un outil.
Mm-hmm. Et c'est un dictionnaire électronique, en fait, c'est ça?
Exactement.
Ouais, ok, donc plus malléable et facile d'utilisation.
Donc oui, c'est ça. Là, c'est une application sur nos téléphones, donc on sait qu'on peut l'avoir partout parce qu'on a tous nos téléphones sur nous de nos jours. Et puis, c'est ce qu'on voulait viser aussi, l'accessibilité dans le sens où tout le monde peut l'avoir n'importe où, n'importe quand.
D'accord. Et ça nécessite quand même un petit travail des employeurs. Là, il faut qu'ils aillent regarder et puis qu'ils apprennent les quelques mots parce que c'est du vocabulaire d'entreprise, j'imagine.
Exactement. Ouais. Mais ce qui est important surtout, c'est de penser au fait que ça ouvre les portes. On est capable d'arriver et de montrer qu'il y a des outils qui sont disponibles.
C'est vrai.
C'est ça le plus important.
Les employeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes en se disant « mince, comment je vais faire ?»
C'est surtout qu'il y a quand même un manque d'informations à ce niveau-là parce que généralement, ils se disent « ok, il faut que je paye un interprète. » Mais est-ce qu'il faut que je paye un interprète réellement à chaque fois que la personne sourde arrive dans le milieu de travail, tout le temps? Non, non, non. On s'entend pour dire qu'en fait... Pour la formation, tout ce qui est la formation, on peut se permettre de prendre un interprète, ok. Mm-hmm. Pour l'entrevue, par contre, ça peut être comme vous voulez. Mais ensuite de ça, en plus d'avoir un outil, c'est beaucoup plus facile de communiquer, que ce soit dans l'environnement de travail, avec l'équipe au complet, et de patron à l'employé.
Mm-hmm. Et est-ce qu'une personne sourde qui va faire un entretien d'embauche vient avec son interprète ou attend que l'employeur engage un interprète? C'est quoi la...
Et en fait, c'est des ressources gouvernementales qui sont données à toutes les personnes qui en veulent embaucher un interprète pour un service d'interprétation. Et ça, on ne le sait pas trop. Mm-hmm. Mais donc, les employeurs, généralement, c'est eux les patrons vont appeler pour avoir un service d'interprétation. Ils vont quand même payer, mais ils vont quand même se faire rembourser.
D'accord, intéressant, effectivement. Zara, vous étiez sur l'équipe Visiter les petits restaurants et cafés. Votre mandat, c'était comment améliorer l'accès aux petits restaurants et cafés à Montréal pour les personnes vivant avec un handicap moteur. Je le rappelle juste comme ça, c'est tous les handicaps qui étaient pris en compte, hein, les handicaps visuels, physiques, auditifs, même des handicaps, des limitations intellectuelles. Donc ça, c'est important de le dire, c'était universel. Mmh. Zara, quelle était votre solution?
Alors, finalement, nous, on a décidé de faire un design d'un service. Et on a trouvé que notre équipe, au tout début, quand on était formés, les premières comme 10 minutes qu'on était tous ensemble, notre mentor, Dianto, de l'architecture sans frontières, elle a nous posé une question super intéressante. Elle a nous dit, est-ce qu'on va faire une solution qui est la solution idéale ou est-ce qu'on travaille sur une solution qui peut être faite assez vite? Et c'était vraiment unanime. On a tous décidé que la meilleure chose, c'était de faire quelque chose qu'on peut mettre à pied aussitôt que possible. Alors, quand on a fait notre brainstorming sur ça pourrait être quoi, quelle approche qu'on va faire, on a trouvé qu'on peut adresser beaucoup de différentes questions et enjeux dans cette mandat si on fait un design d'un service au lieu d'une solution physique.
Mm-hmm. Et donc, cette
service, c'est en forme d'un club de dîner ou souper. Mm-hmm. Alors, ça veut dire qu'il y a une plateforme en ligne, les gens peuvent s'inscrire. Vous pouvez avoir une disabilité, mais peut-être
un handicap,
mais vous pouvez être un ami de quelqu'un aussi. C'est pas important. Tout le monde est bienvenu, okay. En effet. Alors, cette club visite un nouveau restaurant à chaque semaine.
D'accord.
Et avec ce service vient un hôte d'accessibilité qui host, en anglais, quelqu'un qui...
Un hôte.
Alors, cet hôte arrive à le restaurant, mettons, une heure avant que le souper commence. Et il fait une formation avec le personnel du restaurant et il parle de c'est quoi les particularités ou les choses à penser quand on accueille les gens avec disabilité, les gens avec handicap.
Ouais.
Puis là... quand les gens arrivent en paratransit, mettons s'ils ont en chaise roulante, il ou elle va mettre une rampe.
Ouais.
Parce que souvent, on voit que dans nos rues héritage, comme le Saint-Laurent ou l'Avenue Mont-Royal, il y a souvent
des marches.
Des marches, qui veut dire que si vous êtes en chaise roulante, vous ne pouvez pas entrer. Alors, il installe une rampe, il aide les gens à monter, il assure que la qualité de service est bonne durant le souper, il va même assurer une toilette accessible, aider avec ça, cet élément aussi.
Donc, l'hôte reste pendant toute la durée du repas?
Oui, c'est ça, et aide à sortir aussi. Et on laisse une rampe à portable avec le restaurant aussi. Alors, tout le monde qui est venu sait qu'il peut retourner là et ils vont être bien accueillis.
Okay. Et ça, est-ce que vous vous assurez d'abord de la collaboration du restaurant ou c'est au hasard?
C'est sûr qu'on va nous introduire avant, alors absolument besoin de la collaboration.
Parce que si vous arrivez un samedi soir en plein rush, là, je ne suis pas sûre qu'il vous reçoive.
Non, c'est partie de notre travail à faire, c'est de commencer à collectionner tous nos collaborateurs de restaurants.
Et là, vous en avez combien?
On avait une pour commencer, alors oui, c'est ça.
C'était qui?
Le Robin des Bois.
Ah, génial! Et donc, cet hôte, c'est qui en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est payé ou bénévole?
C'est toutes les choses qu'il faut résoudre. C'est certain qu'au début, on peut fonctionner avec des bénévoles, mais ça, si on, dépendant le financement que notre projet reçoit, c'est certain que si c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'une éducation et d'une spécialité, alors ça serait excellent de créer des jobs aussi à la même fois.
Mm-hmm. Ou ça pourrait être des amis ou des personnes qui sont capables d'expliquer leur handicap et de sensibiliser.
Absolument.
Je pense à Kevin Breton, oui. Il serait tout à fait capable d'être hôte en même temps. Mais en tout cas, peut-être que je lui en mets beaucoup là, mais vraiment, il est très très fort. Sinon, Marc-André, là, vous allez, vous, à l'AMI, sélectionner des projets pour donc les intégrer dans votre incubateur civique. Hein, c'est un des programmes que vous proposez. Où vous en êtes dans la sélection?
En fait, dans un premier temps, le partenariat se poursuit avec l'Université Concordia, bien sûr. On va accueillir les candidatures. En fait, c'est plutôt les équipes qui doivent décider si elles poursuivent ou non dans l'incubateur civique. Donc, les caractéristiques...
Qu'est-ce que ça implique pour elles?
Ben, en fait, c'est ça. Il faut voir, dans un premier temps, elles sont prêtes à poursuivre l'engagement, en fait, sur une assez longue durée, 3 mois hein, encore. Un autre 3 mois de travail soit intensif. Est-ce que l'équipe est suffisante et encore multidisciplinaire et capable de poursuivre dans l'incubateur? Donc, l'état de l'équipe dans laquelle...
s'ils ont perdu des joueurs.
Ou pas, et s'ils vont aller rapatrier ou aller chercher d'autres joueurs. Ensuite de ça, le potentiel d'impact, bien sûr, qui est important à tenir en compte. Donc, ce sont tous des caractéristiques ou des critères qui vont être pris en considération. Et donc, les équipes, on espère que le plus grand nombre d'équipes vont déposer leur candidature. On devrait, en fait, là, au courant du fin juin, début juillet, recevoir les candidatures pour un début dans l'incubateur au mois d'août. Mm-hmm. Et donc, l'incubateur, en gros, là, ce sont 4 grandes étapes qui vont permettre, en fait, de pousser plus loin parce qu'on s'entend qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait au sein du projet d'Enable. Mais dans un premier temps, l'incubateur civique propose aux innovateurs, aux entrepreneurs en devenir un module sur le leadership résilient parce qu'on sait que ça demande énormément d'énergie, d'investissement que de se lancer en innovation et en entrepreneuriat. Donc, on a décidé de mettre en place un module qui va permettre aux gens de bien se préparer psychologiquement et poursuivre et terminer et accomplir le projet au complet.
Comme un marathon, mais rapide.
Exactement. Mais aussi ce qui les attend en tant qu'entrepreneurs par la suite, une fois la forme juridique, oui, et l'entreprise ou le projet en cours. Donc,
vous les suivez après aussi.
Oui, tout à fait. Donc, le deuxième, c'est une revue, en fait, du volet de la stratégie d'impact. On a déjà abordé dans le cas d'Enable ce volet-là. Mais c'est de peaufiner la stratégie d'impact. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact social, mm-hmm, ou environnemental à l'intérieur de l'innovation? On va vers un prototypage avancé dans le cas de Enable. Donc, peaufiner, affiner ce qui a été déjà fait. Et pour terminer sur une stratégie de déploiement, comment on va concrétiser l'innovation en forme juridique.
Génial. Allez-vous poser votre candidature?
Absolument.
Oui, absolument.
Yeah!
Oui.
Bon, mais on en veut d'autres, des projets comme ça, l'Université de Montréal, McGill, réveillez-vous. En tout cas, bravo à Concordia. C'était Marie-Lou Daudier au téléphone, Marc-André Delorme de la Maison de l'Innovation Sociale, Zara Pil, qui est service designer et qui a participé au projet, comme Mervan Lacroix-Bergeron, interprète et l'ESCU. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'est sûr qu'on va vous reparler, c'est sûr.
Merci à vous.
Parfait, merci beaucoup.